sur Radio Chablais. Nous avons commencé le mois d'avril à Vers-l'Église, chef-lieu de la commune d'Ormont-Dessus. Nous le terminons à proximité du Cépet, chef-lieu de la commune d'Ormont-Dessous. Christian Chulé, bonjour.
Bonjour.
Pour ce dernier lieu de visite dans les Ormonts, nous nous trouvons sur un pont inscrit comme bien culturel suisse d'importance nationale.
Et oui, nous allons aujourd'hui traverser la Grande Eau en empruntant un ouvrage d'art qui permet d'enjamber la profonde gorge creusée par la rivière entre le Cépet et la Forcla, le pont des planches.
À quoi est due sa construction ?
Sa construction est liée à l'arrivée du chemin de fer dans la vallée des Ormonts et le train est du reste en train de passer à côté de nous.
L'avantage du train qui passe, c'est que le pont tremble.
Et une demande de concession pour un chemin de fer d'Aigle au Cépet par la rive droite de la Grande Eau, donc en suivant la route cantonale, est formulée pour la première fois en 1897. Et en prolongement, une nouvelle concession est demandée en 1905 pour un chemin de fer électrique du Cépet à Ormont-Dessus. Et le tracé finalement retenu emprunte la rive gauche de la Grande Eau, ce qui nécessite la construction d'un pont pour traverser la vallée et desservir le Cépet où les convois rebrousseront chemin pour poursuivre leur course vers les Diablerets, ce qui donne l'occasion d'emprunter deux fois le pont.
Christian Chulé, quand commencent les travaux ?
Le premier coup de pioche pour la construction du tronçon du Cépet au pont des planches est donné en février 1911 et l'année suivante, au début de l'année 1912 donc, débutent les travaux de construction de ce pont qui est le plus important ouvrage d'art de la ligne.
On peut parler de la conception de ce pont ?
Une conception qui retient l'attention car il est construit selon une technique consistant à enrober de béton armé la structure métallique de l'ouvrage qui est appelée système Mellan du nom de l'ingénieur autrichien Joseph Mellan qui a développé cette méthode.
Comment peut-on décrire ce pont ?
Alors cet ouvrage est décrit par le quotidien La Revue du 10 janvier 1912 qui le décrit de la manière suivante : ce pont qui a une longueur totale de 106 mètres et une largeur de 6 mètres et un pont que vont se partager, comme c'est toujours le cas actuellement, le chemin de fer et la route. Donc ce pont se composera de deux viaducs en maçonnerie, de deux voûtes. Donc ces deux viaducs sont situés sur les côtés et qui vont constituer les culées du pont. Donc ces deux viaducs seront placés sur les deux rives de la Grande Eau et réunis par une arche principale en béton armé de 63,6 mètres d'ouverture, la plus grande ouverture de la Suisse pour un ouvrage de ce système. L'arche elle-même, donc qui est au centre, sera constituée par cinq gros arcs métalliques qui seront noyés dans un bétonnage dont l'épaisseur varie entre 80 cm et 1,20 m. Et le tablier du pont sur lequel nous nous trouvons, qui vibre lorsque le train passe, ce tablier reposera sur l'arc grâce à 12 rangées de colonnes en béton armé. Et la chaussée dominera donc de 70 mètres le niveau de la Grande Eau que l'on voit en contrebas. Et l'article termine en concluant que le pont des planches sera très remarqué grâce au système employé et à son apparente légèreté.
La construction du pont est vraiment impressionnante.
Et après 9 mois de travaux, en septembre 1912, les culées principales, donc de chaque côté, sont achevées. L'échafaudage en bois pour la construction de l'arche qui va enjamber la vallée est en place au printemps 1913 et on peut déjà juger de la hardiesse de cet ouvrage, commente la presse à ce moment-là. À la fin du mois d'août, ça va assez vite, la coulée du béton est terminée et il ne reste plus qu'à établir la chaussée et les balustrades de cet ouvrage qui est qualifié de belle œuvre technique. Le 27 août, Pierre, on est à la fête puisque le pont reçoit un premier baptême d'inauguration. L'entrepreneur a offert une collation, un concert et un bal sur le pont même, donc à l'endroit où nous nous trouvons, à ses invités et à ses ouvriers. C'est la première inauguration, il y en aura une deuxième le lundi 22 septembre de la même année, 1913, le jour où est ouvert à l'exploitation le parcours d'Aigle au Cépet du chemin de fer électrique à voie étroite, qui l'année suivante atteindra les Diablerets et qui franchit sans crémaillère les quelques 750 mètres de dénivelé qui séparent Aigle de son terminus Ormonon.
Christian Fulé, lorsqu'on regarde en direction de la Grande Eau, il y en découvre l'ancien pont.
Et oui, c'est cet ancien pont par lequel on passait et c'est un soulagement, un agrément de ne plus devoir descendre par une forte rampe tortueuse à l'ancien pont maintenant relégué dans l'ombre et sans soleil, ni de remonter péniblement sur l'autre rive, dit en correspondant la feuille David Aigle à cette époque-là. Et effectivement, nous l'apercevons en contrebas, ce pittoresque pont en pierre à une seule arche qui a été bâti au XVIIIe siècle en remplacement d'un précédent pont rudimentaire en bois, donc qui a été bâti pour relier le Cépet d'un côté à la Forcla de l'autre et qui est classé, tout comme le pont sur lequel nous nous trouvons, monument historique. Et si nous élevons le regard, nous avons un petit peu plus haut un autre pont Le pont d'Aigremont, construit entre 1978 et 1981 sur la route qui mène au Diableret, qui permet de franchir le vallon de la Ravrette. Et le paysage est dominé par la silhouette majestueuse du Pic Chaussy, Pic Chaussy enneigé. Et c'est sur cette agréable vision que nous allons prendre congé désormais.
Absolument, et le Pic Chaussy qui s'est découvert pour cette fin de chronique. Donc merci la nature et merci à vous. Christian Chulet, la grande eau qui coule sous nos pieds a sculpté le destin des Ormonds. La force de l'eau est d'ailleurs le titre d'une exposition à découvrir encore cette année au musée des Ormonds à Vers-l'Église. Quant à nous, nous nous retrouverons au mois de mai pour de nouvelles aventures de visites guidées. Merci Christian Chulet, puis à bientôt.
Avec grand plaisir, à bientôt.